VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle américaine 2016. La candidate démocrate Hillary Clinton entame ce mardi les quatre dernières semaines de la campagne électorale avec le vent en poupe. Alors que le camp républicain semble avoir abandonné tout espoir concernant une possible victoire de son porte-étendard Donald Trump. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Au lendemain du deuxième débat Clinton-Trump, grande déception pour le candidat républicain, le très influent Paul Ryan, président de la Chambre des représentants, a annoncé à ses députés qu'il ne défendrait pas ou ne ferait pas campagne pour Donald Trump, une façon de dire qu'il coupait tout lien avec le candidat de son parti à la présidentielle du 8 novembre. De toute évidence, il veut préserver sa majorité à la Chambre basse, qui sera renouvelée le même jour. M. Ryan ne veut pas donner à Hillary Clinton un chèque en blanc avec un congrès contrôlé par les démocrates, selon une source de son parti. En réaction, Donald Trump a dit sur Twitter que Ryan devrait consacrer davantage son temps au budget, à l'emploi et à l'immigration plutôt que de se battre contre le candidat républicain. M. Ryan s'était dit écœuré par les propos dégradants sur les femmes tenus par M. Trump dans une vidéo datant de 2005 qui a entraîné une cascade de défections républicaines tout au long du week-end. Durant le débat, Donald Trump a présenté des excuses tout en accusant Bill Clinton d'agression sexuelle. Un sondage NBC Wall Street Journal publié hier donne maintenant à Hillary Clinton une avance de 11 points sur Donald Trump. Concernant le Congrès, les républicains pourraient perdre le Sénat et voir leur majorité à la Chambre sérieusement réduite selon le même sondage.
Afrique maintenant, Éthiopie, le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a affirmé ce mardi vouloir réformer le système électoral pour mieux représenter l'opposition en réponse au mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans qui secoue actuellement son pays. Nous voulons réformer le système électoral pour que les voix de ceux qui ne sont pas représentés puissent aussi être entendues au Parlement, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse commune à Addis Abeba avec la chancelière allemande Angela Merkel, qui termine en Éthiopie une tournée africaine consacrée à la crise migratoire qui l'a d'abord conduit au Mali puis au Niger. Conflit en Somalie, des centaines de soldats éthiopiens opérant dans le cadre de la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, se sont retirés ce mardi de la ville d'El Ali dans le centre du pays. Le départ des Éthiopiens a permis aux Shebab, les militants islamiques, de reprendre le contrôle de la localité. El Ali est la seconde ville abandonnée par les troupes éthiopiennes dans la région ces dernières semaines, après leur départ de la localité voisine de Mokokori. Aucune explication n'a été fournie par l'armée éthiopienne sur les raisons de ce mouvement de retrait qui intervient deux jours après l'instauration en Éthiopie de l'état d'urgence pour une période de 6 mois afin de faire face à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent. Mais il n'était pas possible d'établir un lien direct entre les deux événements. La République voisine de Djibouti vit de sa position stratégique. La France, les États-Unis et la Chine se bousculent pour être présents dans ce petit état de la Corne de l'Afrique. Et la Chine vient d'y réaliser une ligne ferroviaire électrique, la première du genre sur le continent africain, reliant Djibouti à l'Éthiopie. Ilyas Moussa Dawale, ministre djiboutien des Finances, parle des retombées de cette position géographique.
Ça lui rapporte très peu. On ne le répétera jamais assez. Si vous voulez la vérité, ces pays payent quelques frais de loyer, on va dire, annuels. Hein. Notamment, prenons l'exemple de 60 millions de dollars américains.
Pas plus que ça ?
Pas plus que ça, c'est 60 millions. Pour la France, c'est 30 millions d'euros. Pour la Chine, c'est 20 millions de dollars. En tout et pour tout, autour de 110 millions de dollars par an. Et pendant ces temps, nous offrons plus de 400 millions à 500 millions de dollars sous la forme d'exonération, d'impôts, de douanes, ainsi de suite. Mais l'essentiel ne se trouve pas dans l'argent. Pour nous, l'objectif ne se trouve pas dans le cumul de recettes à augmenter ou à rechercher. Notre apport pour la sécurité internationale, c'est notre contribution.
Ilyas Moussa Dawale, ministre djiboutien des Finances.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Sénégal, un frère du président sénégalais Macky Sall et l'homme d'affaires australo-roumain Franck Timis ont porté plainte à Dakar contre 11 personnes, dont des opposants et des journalistes, pour diffamation dans une affaire liée à la découverte d'hydrocarbures qui empoisonne le débat politique dans le pays. D'après l'AFP, les personnes visées par la plainte affirment Kaliu Sall s'est enrichi sans cause parce qu'il est le frère du président qui aurait facilité son introduction dans le milieu du pétrole. L'opposition a annoncé une marche le 14 octobre à Dakar avec notamment pour mot d'ordre une meilleure gestion des hydrocarbures. Bien que la production des gisements découverts dans le pays essentiellement de gaz naturel ne soit pas attendue avant plusieurs années. En Guinée, c'est aujourd'hui le premier anniversaire des élections présidentielles de 2015. Human Rights Watch, Amnesty International, deux organisations de défense des droits de l'homme ont publié à cette occasion un communiqué pour dénoncer l'impunité après les violences qui avaient entouré ce scrutin. Les précisions d'Anastasie Toudièche.
Les deux organisations de défense des droits de l'homme pressent les autorités guinéennes d'agir afin que, je cite, « les membres des forces de sécurité et les groupes liés aux partis au pouvoir et à l'opposition répondent de leurs actes pour le meurtre de 12 personnes, pour les viols et pour le pillage de plusieurs marchés à Conakry ». Fin de citation. Les ONG reconnaissent les mesures significatives prises sous Alpha Condé pour assurer une meilleure discipline au sein des forces de sécurité, mais l'appellent à faire du renforcement de l'état de droit une priorité. Cependant, Ibrahima Beavogui, s'exprimant à titre personnel en tant que juriste, a rejeté ces critiques. Il a déclaré que ces ONG dites de défense des droits humains n'ont qu'à, avant de faire des rapports comme celui-là, venir discuter avec nous. Sollicité par l'AFP après la publication de ce communiqué, le gouvernement guinéen n'a pas réagi dans l'immédiat.
Au Congo-Brazzaville, le procureur de la République a accusé de terrorisme dans la région méridionale du Pôle, Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Tata Ntoumi. Brazzaville traque le Pasteur Ntoumi et ses hommes dans ce département du sud de la capitale, tandis que ces derniers affirment ne faire que se défendre avec des fusils de chasse. Franck Eloge Mpassi, porte-parole du pasteur Ntoumi, affirme que c'est plutôt l'armée qui terrorise les populations avec des bombardements par hélicoptère. On l'écoute.
On le dit qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Entre le bombardement d'un hélicoptère et l'utilisation d'un calibre 12, qu'est-ce qui terrorise mieux la population? Il faut qu'on regarde ces rapports de force. Ce que nous demandons, nous sollicitons que les deux camps dialoguent. C'est le dialogue qui va régler le problème.
Pour sa part, la société civile congolaise appelle à un dialogue entre les deux parties. Écoutons Luamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral.
Depuis 1993, le Pôle est toujours dans des difficultés. Et lorsqu'il y a un événement malheureux dans notre pays, le Pôle est toujours à la tête, le Pôle est toujours concerné. Donc c'est le chef de l'État doit se lever pour prendre des décisions, et des décisions courageuses pour effectivement, et ces décisions pour nous c'est le dialogue.
Luamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral. La Cour pénale internationale tient aujourd'hui à La Haye ses premières audiences publiques sur d'éventuelles indemnisations pour les victimes de crimes de guerre en République démocratique du Congo. Les audiences, qui se poursuivront jeudi, devront permettre aux juges de la Chambre de première instance de déterminer combien peuvent recevoir les anciens enfants soldats recrutés par le chef de milice Thomas Lubanga dans l'est de la RDC en 2002 et 2003. 1 million d'euros a été alloué à ce dossier par le Fonds au profit des victimes, un organe indépendant mis en place par le traité fondateur de la Cour pénale internationale, le statut de Rome. En Afrique du Sud, la justice sud-africaine a ouvert une enquête contre le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, accusé notamment de fraude alors qu'il dirigeait les services du fisc. C'est ce qu'affirme ce mardi le procureur général Sean Abrams. L'annonce des poursuites engagées contre le ministre qui a la confiance des marchés financiers a immédiatement provoqué une chute du rand sud-africain qui perdait en fin de matinée plus de 3% par rapport au dollar. Chantre de la lutte contre la corruption, le ministre des Finances s'est souvent opposé au président Jacob Zuma, mis en cause dans plusieurs scandales financiers sur la gestion des entreprises publiques. Conflit au Yémen, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a réclamé la création d'un organe indépendant pour enquêter sur les violations des droits de l'homme au Yémen. Et ce, après la mort de plus de 140 personnes dans des frappes aériennes contre une cérémonie funéraire. Et pour terminer, Israël a bouclé les territoires palestiniens aujourd'hui et placé sa police en état d'alerte à Jérusalem pour parer tout attentat contre les dizaines de milliers de fidèles attendus à Jérusalem pour la fête la plus solennelle du calendrier juif. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.